décembre 2017 déjà, oui, et au travers des airs de Noël, bien l'actualité poursuit son chemin. Voici donc votre revue de presse au quotidien des quotidiens. décembre, donc un anniversaire pour plein de choses. Maurice Bolduc qui assure la mise en onde et la direction de cette émission. Dites-moi, que s'est-il passé un 18 décembre à travers l'histoire?
Les journées internationales, aujourd'hui c'est la journée internationale des migrants. Donc il était 18 décembre, une journée donc des migrants. C'est l'occasion dans le monde entier de réaffirmer, de promouvoir le droit des migrants. La date a été choisie il y a 4 ans. Pour attirer l'attention sur une convention adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1990, mais restée inapplicable faute de ratification suffisante. J'ai regardé, il y a environ 27 pays qui ont signé pour l'instant, tous des pays du tiers-monde, comme on appelle le Canada, les États-Unis ne sont pas signés encore,
la France n'a pas signé. Et il est prévu que la convention entre en vigueur quand on va avoir 110 États, quelque chose comme ça?
Oui, en tout cas, il faut avoir un certain nombre pour avoir le quorum, comme on dirait. Et c'est aussi la journée mondiale pour la langue arabe. Depuis plusieurs années, on célèbre cette journée mondiale consacrée à la langue arabe. Pardon. Il s'agit d'une initiative de l'UNESCO qui lui donne son caractère officiel. La date retenue d'aujourd'hui, elle fait référence au jour où en 1973, la langue arabe est devenue la 6e langue officielle de l'Organisation des Nations Unies. Quelques événements. En 1865, toujours le 18 décembre, l'esclavage est aboli aux États-Unis par la proclamation du 13e amendement de la Constitution. En 1892, c'est la présentation du ballet Casse-Noisette au Théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg. Et ça se perpétue d'année en année maintenant à la Place des Arts.
Et le grand classique de Noël à travers le monde.
Absolument. Et ici aussi, justement, à la Place des Arts. Mm-hmm. En 1944, c'est le premier numéro du journal Le Monde qui paraît, donc en France. En 1956, on parlait d'ONU tout à l'heure, le Japon y fait son entrée à l'ONU. En 1970, c'est la création d'Airbus. Airbus, on les connaît quand même. Ils viennent d'acheter Bombardier.
Ils viennent d'acquérir les droits de commercialisation de la C-Series.
Ah, OK, pas Bombardier.
C'est important de faire la nuance ici.
Oui, merci. En 1970, malgré une campagne de l'Église catholique, la loi autorisant le divorce entre en vigueur en Italie. En 1990, c'est l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs. Ah, j'en ai parlé tantôt. De protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. En quelques naissances, Christine, reine de Suède, de 1632 à 1654. Il y a un film qui a été consacré.
C'est un personnage fascinant.
Ah, oui. C'est un très bon film aussi. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, louer ça vaut le coup. En 1737, le maître luthier de Crémone Antoine Stradivarius naît, et donc on célèbre pour ses violons. En 1863, François Ferdinand, archiduc d'Autriche, naît aussi à son tour. Lui est connu pour avoir été assassiné en 1914, et c'est le début de la Première Guerre mondiale. En 1878, Joseph Staline naît à son tour. Il deviendra chef d'État de l'URSS de 1922 à 1952. En 1920, un peu plus joyeux, Eddie Marnay, parolier français, naît à son tour. En 1927, Roméo Leblanc, ancien journaliste, homme politique et ancien gouverneur général du Canada, naît en 1927. Lui nous quitte en 2009. Le chanteur et poète Jean Ferrat, lui, naît en 1930. 1943, Keith Richards, le musicien britannique, guitariste du célèbre groupe des Rolling Stones.
Ah, je pensais que c'était au 17e siècle.
Ah, c'est les rides, faut pas se confondre. En 46, Steven Bantu, dit Steve Biko, militant anti-apartheid sud-africain, né en 46. Et lui, on l'a connu grâce à une chanson de M. Peter Gabriel, qui s'appelait tout simplement Biko. En 46 aussi, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Steven Spielberg, connu pour quelques films, dont E.T. En 1948, naissait aussi Laurent Voulzy, chansonnier, chanteur français, qui a accompagné beaucoup Alain Souchon. Quelques décès en 1991, Armand Frappier, médecin, chercheur, microbiologiste canadien, et même il y a son institut maintenant qui porte son nom. En 2001, Gilbert Bécaud nous quittait aussi. Et Vlaclav Havel, dramaturge et aussi homme d'État tchécoslovaque et président de la République tchèque, nous quittait en 2011. Donc, ça fait le tour de
cet éphéméride. Merci beaucoup,
du 18 décembre. Merci beaucoup.
Alors, sans plus attendre, on passe immédiatement à la presse et aux quelques nouvelles que le temps imparti nous permet encore de caser. On parle d'abord d'Alberta, plus particulièrement de sable bitumineux, parce qu'il va y avoir une première en Alberta, une première qui est assez étonnante. Je vous donne le texte de Bob Weber de la presse canadienne. Sable bitumineux, l'Alberta a commencé à surveiller les émissions dans l'air. L'Alberta a commencé à surveiller les émissions des sables bitumineux depuis le ciel. L'Agence d'évaluation environnementale de la province utilise de l'équipement de détection aérienne pour mesurer les gaz à effet de serre et d'autres produits chimiques des gisements de sable bitumineux au nord de Fort McMurray. Le programme sera maintenant élargi pour couvrir toutes les zones où des sables bitumineux sont exploités. Fred Rona, le scientifique en chef de l'Alberta, a expliqué que la province souhaitait avoir un meilleur inventaire des émissions de l'industrie. De récentes données de la détection aérienne révèlent que les émissions de gaz à effet de serre de certaines régions ont été considérablement sous-estimées. Le programme analyse en ce moment environ 100 heures de données de vol enregistrées en octobre sur les gisements de sable bitumineux au nord de Fort McMurray. Les données ont été captées par un avion de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, un institut de recherche gouvernemental des États-Unis. L'appareil mesurait le méthane, le dioxyde de carbone, l'éthane ainsi que d'autres produits chimiques émis par les installations de sable bitumineux. Le programme sera élargi dans la prochaine année pour couvrir le pétrole lourd et les activités de sable bitumineux dans les régions de Cold Lake et de la rivière de la Paix, dont la communauté de Three Creeks, qui a fait l'objet de nombreuses critiques pour les fortes odeurs provenant de ces installations énergétiques. Nous ne nous concentrons plus seulement sur les activités de Fort McMurray. Nous essayons d'avoir une perspective globale sur la portée et le type d'activités de sable bitumineux qui ont lieu, a soutenu M. Rona. Toutes ces régions sont déjà dotées d'un système de surveillance des émissions, mais qui est établi au sol. Bien que ces stations fournissent d'importantes données, les avions peuvent être plus riches en informations. Nous avons beaucoup plus d'informations détaillées en utilisant un appareil, a souligné M. Rona. Nous pouvons avoir une plus grande portée. Les avions permettront aux scientifiques de distinguer ce qui vient des mines en exploitation, des bassins de résidus et des niveaux de pollution naturelle. Ils pourront aussi déterminer le niveau de pollution naturelle de telles émissions avant le développement futur. Et on est en droit de se demander, mais ciel, comment se fait-il qu'ils ne le faisaient pas avant? C'est l'hiver, on peut pas sortir sans s'en apercevoir, bien sûr, et moi, évidemment, à cette époque de l'année, probablement vous aussi, j'ai une pensée charitable pour tous ceux qui n'ont pas un toit au-dessus de leur tête. Alors, on fait le point avec la Ville de Montréal sur les mesures mises en place pour venir en aide aux itinérants. C'est d'ailleurs le titre d'un texte de la presse canadienne. En cette période de grand froid, des mesures spéciales sont mises en place pour venir en aide aux personnes itinérantes de Montréal. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du centre-sud de l'île de Montréal, la Ville de Montréal et les organisations communautaires se mobilisent afin de coordonner leurs actions. Ainsi, on veut s'assurer que l'hébergement d'urgence soit suffisant pour répondre à la demande quotidienne qui augmente en hiver. Des services complémentaires sont également créés pour les personnes qui n'utilisent pas ces ressources. La Ville investit près de 800 000 $ pour ces mesures hivernales qui permettent l'embauche d'une vingtaine d'intervenants dans 6 ressources d'hébergement, l'ouverture d'une halte chaleur et le déploiement d'un service de navette. La présidente directrice générale du CIUS, Sonia Bélanger, estime qu'il faut tout mettre en œuvre pour s'assurer que non seulement les personnes les plus vulnérables aient un endroit où se loger par période de grand froid, mais qu'elles aient aussi accès à un éventail de ressources. Pour l'hiver 2017-2018, Montréal dispose de 925 places d'hébergement d'urgence pour accueillir les hommes, les femmes et les jeunes en situation d'itinérance. Pour les hommes, ce sont 740 places d'hébergement d'urgence rendues disponibles grâce à la collaboration de la Maison du Père, de la Mission Bon Accueil, de la Mission Old Brewery, de Projets autochtones du Québec et du Cap Saint-Barnabé. Concernant l'hébergement d'urgence destiné aux femmes, près de 110 places sont réparties entre le pavillon Patricia McKenzie, la rue des Femmes, le Chaînon, Projet autochtone du Québec, Passage, le Cap Saint-Barnabé, l'Abri d'Espoir et l'Armée du Salut, ainsi que la Maison Marguerite. Pour les jeunes, 65 places d'hébergement d'urgence sont offertes au Refuge des jeunes de Montréal, au bunker de l'organisme dans la rue et à En Marge, 12-17. Par ailleurs, le centre de répit et de dégrisement peut recevoir 12 hommes et femmes en situation d'itinérance exclus des refuges, des ressources d'hébergement ou en situation de crise. Nouvelle inquiétante, vétérans. Explosion de la demande pour du cannabis médicinal, un texte de Jean-Denis Bellavance avec l'aide de William Leclerc de La Presse. Depuis que le gouvernement Trudeau a confirmé au printemps 2016 devant les Nations Unies sa ferme intention de légaliser rapidement la consommation de cannabis, le nombre d'anciens combattants qui consomment de la marijuana à des fins médicales a presque triplé au pays, et la facture aussi. Selon des informations obtenues par La Presse, le nombre d'anciens combattants qui fumaient de la marijuana à des fins thérapeutiques en 2015-2016 était de 1762. Un an plus tard, ils étaient 4474 anciens combattants à consommer du cannabis après avoir obtenu une ordonnance de leur médecin. Durant cette même période, les sommes remboursées aux anciens combattants sont passées de 20,5 à plus de 63 millions de dollars selon des statistiques obtenues par La Presse auprès du ministère des anciens combattants en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Oui. Depuis 2008, ce ministère accepte de payer le cannabis thérapeutique aux anciens combattants qui en font la demande afin de soulager des douleurs chroniques ou encore pour traiter un syndrome de stress post-traumatique. L'explosion des dépenses du ministère liées à ce programme a déjà été critiquée par le vérificateur général Michael Ferguson dans un rapport publié au printemps 2016. Le chien de garde des contribuables avait alors exhorté le gouvernement fédéral à fixer au plus vite une limite au remboursement. Il disait alors craindre que près du tiers du coût des médicaments couverts par le programme de médicaments sur ordonnance n'aille au remboursement de la marijuana d'ici 12 mois. Celui-ci accapare en fait près de la moitié du budget. Selon M. Ferguson, deux facteurs pouvaient expliquer la croissance importante des coûts. Le prix du gramme de pot, qui variait alors entre 6 et 14 $, et la popularité de la substance auprès des anciens combattants, dont certains pouvaient avoir droit jusqu'à 10 grammes de pot par jour. Le ministre de l'époque, Kent Eyre, avait ordonné un examen de la politique et avait rejeté sur l'ancien gouvernement conservateur de Stephen Harper la responsabilité de l'augmentation fulgurante des coûts. Puis, en novembre 2016, le ministère des anciens combattants a décidé de limiter à 3 grammes par jour la quantité de cannabis thérapeutique qui pouvait être remboursée. Ces mesures n'ont toutefois pas permis de contenir les coûts de ce programme. Au bureau de l'actuel ministre des Anciens combattants, Seamus O'Regan, le porte-parole Alex Velsted a soutenu que la hausse des coûts était essentiellement liée à l'augmentation du nombre d'anciens combattants qui consomment de la marijuana à des fins thérapeutiques. La santé et le bien-être des vétérans sont une priorité pour notre gouvernement et étaient la considération fondamentale lors du développement de cette politique. Le Collège des médecins de famille du Canada indique que 3 grammes est la limite supérieure pour une consommation sécuritaire. Les vétérans qui identifient un besoin en collaboration avec un spécialiste ont accès à plus de 3 grammes. Comme nous avons affaire à un domaine de recherche émergent, nous continuerons de surveiller les développements, de consulter les experts et les vétérans et nous mettrons notre politique à jour en conséquence, a dit M. Wellstead dans un courriel envoyé à La Presse. On fait une courte pause musicale et on revient de l'autre côté pour aborder les pages du devoir.
J'ai marqué d'une croix. voiture de ta cour. Je suis rentrée chez moi par la sortie de secours. Je me suis dit tout bas, non, ce n'est pas mon jour. Son cœur est un détroit, ses yeux un carrefour. J'ai pris l'harmonica, descendu dans la cour. Et dessous du lilas, j'ai chanté sans détour. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. L'amour est un tournoi où tombe tour à tour. Les guerriers maladroits noyés dans la bravoure. Si c'est ce que tu crois, si tel est ton discours,
formation Saratoga qui nous chantait « Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours ».
À la une du Devoir ce matin, un texte intéressant de Marie-Lise Rousseau, « Aide sociale, les médecins s'attendent à subir dépression ». La réforme de l'aide sociale qui prévoit une hausse de revenus pour les prestataires ayant une contrainte sévère à l'emploi, une CSE, pourrait entraîner une augmentation des demandes d'évaluation médicale, une situation jugée inconfortable par des médecins qui craignent de subir des pressions de la part de patients pour établir un diagnostic reconnaissant une CSE. L'évaluation d'une contrainte sévère à l'emploi aura plus que jamais un impact sur la qualité de vie des prestataires de l'aide sociale, puisque le nouveau plan de lutte contre la pauvreté de Québec garantit un revenu de base égalant la mesure du panier de consommation aux personnes ayant une CSE. Cette mesure, qui devrait mettre davantage de pression sur les médecins à qui incombe l'évaluation de l'employabilité des prestataires. La mesure phare du plan d'action du gouvernement pour l'inclusion économique et la participation sociale, présentée en grande pompe la semaine dernière, touche les prestataires de la solidarité sociale qui ont une contrainte sévère à l'emploi depuis au moins 5 ans et demi. Ces derniers verront leur revenu annuel atteindre 18 000 $ en 2023, soit près du double de celui auquel auront droit les prestataires de l'aide de dernier recours qui n'ont pas de contrainte à l'emploi et recevront 9 929 $ par année. Cet écart important entre les revenus des prestataires risque d'accroître le nombre de demandes médicales visant à faire reconnaître une CSE. J'en suis certain, affirme sans détour le président du Collège des médecins, le Dr Charles Bernard. S'il y a un avantage pécuniaire à aller chercher, des patients vont s'essayer. Selon le directeur du Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations, Christopher McCall, les médecins éprouvaient déjà un malaise à devoir juger de l'employabilité des prestataires de l'aide sociale. C'est très embêtant pour les médecins de décider si la personne en face d'eux, qui ne reçoit que la prestation de base, actuellement 628 $ par mois, devrait accéder à un barème plus élevé. Si l'état de santé du patient ne l'empêche pas de travailler, le médecin doit le laisser vivre avec l'aide de dernier recours, tout en sachant que celle-ci ne lui permettra pas de combler ses besoins de base. Selon le chercheur, l'écart grandissant entre les revenus des prestataires accentuera ce malaise, étant donné l'impact plus important qu'aura cette certification sur leur qualité de vie. Dire à une personne qu'elle n'aura pas le droit à une contrainte sévère, ça peut signifier lui dire de rester dans la rue. « Je peux témoigner de cet inconfort, renchérit le Dr Charles Bernard. Dans tous les domaines où il faut être l'arbitre, ce n'est pas facile, mais le médecin doit faire son travail le plus objectivement possible. À ce sujet, il appelle les médecins à faire preuve de prudence et à ne pas céder au chantage. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec fait preuve d'une certaine retenue. Malaise, oui et non. Ce n'est jamais la partie la plus stimulante de la pratique, mais les médecins sont habitués de travailler dans des situations complexes sur le plan humain, nuance son directeur des communications Jean-Pierre Dion. Selon lui, il est encore trop tôt pour évaluer l'impact qu'aura cette mesure sur les médecins. Québec définit les personnes ayant une contrainte sévère à l'emploi comme étant touchées de façon significative et persistante par des incapacités physiques, intellectuelles ou d'apprentissage ou par des troubles graves de santé mentale. Au 31 mars 2017, 128 320 des quelques 400 000 prestataires d'aide sociale de la province faisaient partie de cette catégorie. Pour être admissible au programme de solidarité sociale, la personne doit démontrer, par la production d'un rapport médical, que son état physique ou mental est de façon significative déficient ou altéré pour une durée vraisemblablement permanente ou indéfinie, a précisé le directeur des communications du MES, Vincent Breton, au Devoir par courriel. La personne doit entreprendre cette démarche auprès d'un médecin qui transmettra ensuite un rapport au ministère à qui incombe celle la décision définitive. Lorsque le rapport médical comporte un diagnostic totalement identique à un de ceux de la liste des diagnostics évidents, la reconnaissance des CSE est immédiate, ajoute M. Breton. Parmi les diagnostics évidents, on retrouve notamment l'autisme, la trisomie, la maladie d'Alzheimer, ainsi que plusieurs types de cancers et de déficiences. On reste en santé cette fois-ci pour aller à Saint-Jérôme où Pauline Gravel nous parle d'une clinique communautaire unique à bout de souffle. C'est d'ailleurs le titre de son article. Seule clinique communautaire en infectiologie au Québec, la clinique Santé Amitié de Saint-Jérôme est la dernière représentante d'une spécialité en voie de disparition, la médecine communautaire. Sans aide de l'État, elle offre des services gratuits à une clientèle composée de toxicomanes, d'ex-détenus et de travailleurs du sexe. La clinique peine à répondre aux besoins d'une région qui fait face aux mêmes problèmes que les grandes villes. Dans le bureau du Dr Jean Robert, tous les murs sont couverts d'illustrations décrivant l'anatomie du corps humain, les virus ou bactéries à l'origine des maladies qui affectent ces patients et les drogues contenant du fentanyl qui sont offertes sur le marché noir. Les gens de la rue sont très sensibles à ces signaux visuels. Plusieurs ne savent pas lire, mais les images leur parlent. À l'aide d'un schéma montrant comment les médicaments préventifs bloquent l'entrée du VIH, j'explique aux prostituées comment ces médicaments les protègent de l'infection. Je leur donne ensuite une copie du schéma et je les incite à l'enseigner aux autres, explique le médecin responsable de la clinique avant de recevoir son premier patient de la journée. Roxane, qui avait pris rendez-vous avec le Dr Robert pour qu'il traite de grosses verrues plantaires, est préoccupée par autre chose. Elle lui confie avoir consommé des méthamphétamines, du haschich et de la cocaïne pendant 3 mois et être inquiète que cette consommation ait des effets négatifs sur le traitement de féminisation qu'elle a entrepris 5 mois plus tôt. Le docteur Robert la rassure en lui expliquant que la dose d'estrogène semble suffisante puisque ses seins ont commencé à pousser et qu'il comprend qu'elle a consommé ses drogues pour se soulager et se libérer de la souffrance intérieure qu'elle vivait. Le motif de la première consultation est très souvent la douleur, un événement aigu, mais ce prétexte cache beaucoup plus, fait remarquer le docteur Robert. Quand Jacques, nom fictif, entre dans le bureau du docteur Robert, il est tout sourire, car il a complété avec succès son traitement contre l'hépatite C qui a duré 16 semaines. Le docteur Robert lui décerne un diplôme et on immortalise, oui, cet instant par une photo. Il s'agit d'un acte particulièrement héroïque pour Jacques, ancien toxicomane qui, il y a une dizaine d'années, arrivait à la clinique en grande dépression nerveuse. Après 7 ans d'incarcération pour vol à main armée, on lui découvrait un cancer du côlon et une ostéomyélite, une infection des os qui nécessitera 3 chirurgies importantes, un traitement antibiotique à vie et une réadaptation pour réapprendre à marcher. « Je ne suis pas un ange, mais je suis un bon père de famille », dit Jacques, tout en décrivant avec fierté les succès de sa fille de 22 ans. Ceux qui viennent à la clinique sont des résilients, des combattants. Les autres sont morts, souligne le docteur Robert. La clinique Santé Amitié est la dernière clinique communautaire à l'image des premiers CLSC dont la mission était d'adapter les services de soins aux besoins de la population locale, de rapprocher l'hôpital de la communauté. L'équipe se rend régulièrement dans les centres de thérapie en dépendance où elle propose aux résidents des tests de dépistage ou encore une consultation médicale pour tout problème de santé qui les handicape. Nous accueillons bénévolement et gratuitement beaucoup de patients qui n'ont pas de carte d'assurance maladie, 176 l'an dernier. Le réseau de la santé est inaccessible à ces patients qui ont souvent une lourde expérience de rejet et dont la souffrance est physique, psychologique et sociale, précise le docteur Robert. Pour pouvoir soigner ses patients, la clinique récupère les antibiotiques et autres médicaments pour traiter le VIH, par exemple, qui n'ont pas été utilisés par les patients qui ont terminé leur traitement. Dernière nouvelle, est-ce que l'autoroute 30, la toute nouvelle autoroute de ceinture et de contournement de Montréal, suffit à la tâche? Eh bien, il semblerait, selon Annabelle Caillou du Devoir, que non. La 30, une voie de contournement peu efficace. L'autoroute 30 qui contourne l'île de Montréal en passant par sa banlieue sud fêtait son 5e anniversaire la semaine dernière. Le 12 décembre 2012, le dernier tronçon de 35 km reliant Châteauguay et Vaudreuil-Dorion était officiellement inauguré, mettant un terme à plus de 50 ans de travaux. Or, elle est déjà archi-congestionnée, on appelle...
Je ne sais pas ce qui est pire entre le dire ou te l'écrire. Ça semble presque impossible à sortir. Mais d'une fois tout dit, le mal est guéri. Sortons d'ici. Un pas en avant, ça a mis du temps. Un pas en arrière, tout est à refaire. Peux-tu décider avant de t'engager? J'ai mal au cœur de me faire autant balancer. Comment me dire que le pire est à venir? Car aujourd'hui je te fais bien rire. Autant hier ça reprit, demain c'est fini. Sortons d'ici. pas ce qui est pire entre le dire ou te l'écrire. Ça semble presque impossible à sortir, mais d'une fois tout dit, le mal est guéri. Sortons d'ici. Un pas en avant, ça a mis du temps. Un pas en arrière, tout est à refaire. Peux-tu décider avant de t'engager? J'ai mal au cœur de me faire autant balancer.
Formation Bombolessé qui nous chantait Même pas envie.
Et voilà qui nous amène à aborder le Journal de Montréal et le grand retour à Laval de son plus illustre personnage pour les bonnes comme pour les pires raisons. Gilles Vaillancourt est de retour à Laval. C'est un texte de Jean-Louis Fortin. L'ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt, a pris un coup de vieux en prison. Il a recommencé ses allées venues dans son royaume depuis une semaine, fraîchement libéré après avoir passé moins d'un an derrière les barreaux pour avoir fraudé ses concitoyens. Notre bureau d'enquête a appris que Gilles Vaillancourt est arrivé mardi dernier à la maison de transition Carpe Diem située dans un parc industriel de l'île Jésus. Un photographe du journal l'a croqué sur le vif un peu après 9 heures dimanche matin alors qu'il sortait de l'établissement par un froid glacial. L'ex-politicien est brièvement retourné à l'intérieur parce qu'il avait oublié quelque chose et s'est ensuite dirigé vers son véhicule au volant duquel il a quitté les lieux. Selon deux sources, le Gilles Vaillancourt qui vient de retrouver sa liberté n'a rien à voir avec le politicien fier et souverain qu'ont connu les Lavallois pendant 40 ans, dont presque 24 à titre de maire. Il y a à peine plus d'un an, il serrait encore des mains en se présentant au palais de justice de Laval pour plaider coupable à des accusations de fraude, complot et abus de confiance. Aujourd'hui, l'homme de 76 ans a le dos courbé et marche d'un pas lent. Lors de sa journée d'accueil du 12 décembre à la résidence Carpe Diem, Gilles Vaillancourt, qui devait subir une première évaluation, est resté à l'intérieur toute la journée. Le lendemain, il s'est joint aux autres résidents pour partager le souper, avons-nous appris. L'établissement comporte 35 places pour des ex-détenus qui réintègrent la vie en société. L'ex-fraudeur en cravate y partage son quotidien avec des criminels, dont des pédophiles, des membres de gangs de rue et des trafiquants de drogue. En maison de transition, Gilles Vaillancourt bénéficie d'une semi-liberté, ce qui signifie qu'il n'est pas totalement maître de ses allées et venues. Il est soumis à un couvre-feu et doit effectuer quelques heures de bénévolat chaque semaine à un endroit dont le nom a été masqué dans une décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Il sera rattaché à cet établissement pendant un an avant d'être admissible à une libération conditionnelle totale. Le 1er décembre 2016, Gilles Vaillancourt avait été condamné à une peine d'incarcération de 5 ans, 11 mois et 15 jours. Il était emprisonné au Centre fédéral de formation, un pénitencier situé dans l'est de Laval. En raison de sa bonne conduite, il a obtenu sa semi-liberté le 16 novembre dernier. Selon un rapport des autorités carcérales, Vaillancourt avait tendance à banaliser ses crimes lorsqu'il était à l'ombre, mais il a ultimement exprimé des regrets et demandé pardon à ses victimes. Si vous êtes fonctionnaire fédéral, le mot que vous détestez le plus entendre, c'est le mot « phénix », bien sûr. Le Journal de Montréal s'est penché, plus particulièrement Boris Proulx et Émilie Bergeron, sur ce qui cloche avec le système phénix. Il ne prend en compte que 2 décimales sur 3 dans la paye. on va chercher de l'argent sans crier gare chez les fonctionnaires et contrevient même à une loi fédérale. Le système de paye Phoenix, qui fêtera en février son deuxième anniversaire de fiasco, comporte son lot de secrets listés dans un document obtenu par le journal. Nous en savons désormais un peu plus sur les grains de sable qui coincent les engrenages du catastrophique système de paye fédéral qui n'arrive toujours pas à payer près d'un fonctionnaire sur deux et a déjà coûté un demi-milliard de dollars. Le document préparé par le ministère fédéral chargé de la paye, le secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, dévoile des détails frappants sur les ingrédients qui ont concocté le gâchis. Ceux qui ont acheté ce système sont des incompétents, réagit Magali Picard de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Ça montre bien qu'au jour 1, tous les ingrédients du fiasco étaient là. Voici un florilège des meilleurs exemples. Phoenix n'a pas été configuré pour alerter les gestionnaires par courriel au moment opportun lorsque surviennent des problèmes. Ils ne savent donc pas quand ils doivent approuver des transactions importantes, ce qui retarde la paye. Phoenix a été personnalisé pour recouvrir les montants payés en trop aux employés sans avertissement et parfois même en contradiction avec des arrangements pris avec eux. Les fonctionnaires sont surpris de recevoir des payes tronquées et peuvent se retrouver soudainement sans argent. Phoenix n'a pas été conçu pour envoyer en même temps tous les documents pertinents à l'assureur des fonctionnaires, ce qui est exigé pour leur inscription. Cela engendre des erreurs dans leur couverture d'assurance dentaire et plus de coûts pour le programme. Phoenix a été conçu pour ne prendre en compte que deux décimales après la virgule dans ses calculs. Cela pose un problème puisque les systèmes de gestion des ressources humaines utilisent trois chiffres après la virgule, un format plus précis et conforme aux exigences des conventions collectives. Les retenues obligatoires des employés ne sont pas réactivées quand ils reviennent d'un congé avec étalement du revenu. Cela est contraire à la loi sur l'assurance-emploi qui force l'employeur à déduire ses montants à chaque paye. Phoenix n'a pas été configuré non plus pour afficher le salaire annuel ou commutatif sur les bordereaux de paye des employés. Le système collige pourtant cette information et elle était visible sous l'ancien système. Les employés ont de la difficulté à analyser leur paye et n'arrivent pas à valider qu'elle ne contient pas d'erreur. Cela leur fait perdre confiance dans le système de paye. Phoenix a été délibérément configuré pour établir des primes d'éloignement seulement pour le poste régulier des employés. En cas d'affectation à d'autres postes, ces paiements cessent et ne reviennent parfois même pas à leur retour à leur poste d'origine. Ce problème touche particulièrement les employés postés dans le Grand Nord. Phoenix a été personnalisé délibérément pour offrir par défaut le plus bas échelon salarial pour leur catégorie d'emploi, au lieu des montants spécifiés dans leur document d'embauche. C'est le cas pour tous les employés permanents ou temporaires, les étudiants et les employés qui sont transférés d'un ministère à l'autre. Et finalement, Phoenix n'a pas été configuré pour recalculer le total des montants payés en trop, ce qui a comme conséquence de recouvrer certains paiements à de multiples reprises, à même le salaire d'un employé. Alors, on ne s'étonnera pas que le fonctionnaire moyen du gouvernement du Canada déteste son système de paye. Pierre Lavoie, le Pierre Lavoie du défi, Pierre Lavoie que tous les enfants des écoles du Québec connaissent maintenant, s'attaque à un autre monde, le monde du travail. Pierre Lavoie veut faire bouger les employés, c'est un texte de Patrick Belrose. Le créateur des cubes d'énergie dans les écoles, Pierre Lavoie, s'attaque maintenant au monde du travail et demande à Québec d'accorder un congé de taxes aux entreprises qui font bouger leurs employés. Ça pourrait être pour aménager des douches, embaucher des kinésiologues ou créer des cours de yoga, illustre Pierre Lavoie. Pour financer ces initiatives santé, Pierre Lavoie propose de les déduire de la cotisation au Fonds des services de santé que chaque entreprise doit verser annuellement. Celle-ci varie entre 1,5 et 4,25 en fonction de la masse salariale de l'entreprise. L'employeur paie déjà cette taxe. Ce n'est pas une taxe supplémentaire, insiste Pierre Lavoie. Elle est déjà là, mais elle est mal utilisée. L'idée constitue en quelque sorte le prolongement des cubes d'énergie qui vise à faire bouger les élèves et leurs parents depuis 2009. La suite logique, présentement, elle est dans le monde du travail et dans les villes qui doivent créer des environnements favorables, affirme Pierre Lavoie. L'athlète saguenéen trace un parallèle avec la prise de conscience écologiste qui a débuté en bonne partie dans les écoles avant de s'étendre au monde du travail. Le jeune qui arrivait ensuite dans une entreprise où on ne récupérait pas, il disait « ça n'a pas d'allure » et tranquillement, c'est devenu une norme sociale. Pierre Lavoie espère ainsi créer au Québec une économie de la prévention par opposition à l'économie de la maladie qui mise sur les soins médicaux une fois que la personne est malade. Si Québec accepte de déduire jusqu'à 50 % de la cotisation, comme le propose Pierre Lavoie, les sommes disponibles pour les employeurs atteindraient tout près de 3,5 milliards. Là, les kinésiologues auraient du travail, les nutritionnistes auraient du travail, les gens iraient s'acheter des espadrilles, énumère Pierre Lavoie. Pour l'instant, l'économie de la prévention n'est pas très développée, déplore-t-il. On voit que ce n'est pas encore dans notre culture. Ce travail de prévention deviendra encore plus important avec le vieillissement de la population qui fera exploser le budget dédié à la santé. Celui-ci représente déjà près de 40 % des dépenses de l'État annuellement. Pour les employeurs, les bienfaits de l'exercice physique sont indéniables, croit Pierre Lavoie. Les employés vont pouvoir venir travailler à vélo ou s'entraîner sur l'heure du midi, dit-il. Ça veut dire des employés plus de bonne humeur, plus concentrés, plus performants. Alors, une dernière dans les pages du Journal de Montréal, donc, Gaëtan Barrette leur refuse le seul médicament pour soulager leur enfant, un texte de Vincent Larrain. Des parents sont furieux d'apprendre que le ministre de la Santé suivra la recommandation de ne pas rembourser le seul médicament pouvant soulager leurs enfants atteints d'une maladie dégénérative rare. Ils préfèrent me mettre des tiges de métal dans le dos plutôt que de payer pour mon médicament, a lâché Ophélie, 8 ans, sur le bord des larmes après avoir entendu le ministre. Le journal rapportait hier que l'Institut d'excellence en santé et en services sociaux, l'INES, venait de recommander de ne pas payer le nusinersène. Il s'agit, selon plusieurs études, du seul médicament pouvant réduire et renverser la dégénérescence des enfants atteints d'amyotrophie spinale, une maladie rare qui s'attaque au système musculaire au coût de 350 000 $ par année. Une quinzaine de parents qui fondaient l'espoir que le ministre infirme cette décision sont allés à sa rencontre hier en marge d'un événement caritatif qui avait lieu dans un centre socioculturel à Brossard. Mais Gaëtan Barrette leur a répondu qu'il ne ferait rien. Le médicament est inefficace selon l'INES, a-t-il rappelé. Je voudrais qu'on puisse donner tous les médicaments, même expérimentaux, mais on est dans une société qui doit faire des choix, et ces choix, on les fait sur une base la plus rationnelle possible, a-t-il déclaré, avant de rencontrer les parents dans une pièce où les journalistes n'étaient pas admis. Quelques instants plus tard, une mère en pleurs est sortie pour s'enfermer dans les toilettes d'où l'on entendait hurler sa rage. Abordons maintenant, si vous le voulez bien, des sujets un peu plus légers et permettez-moi de vous parler comme ça d'emblée d'un musée des échecs qui a ouvert ses portes en Suède. Et bon, quand on entend échecs, c'est pas forcément du jeu dont on parle. C'est un texte de Javier Tovar de l'agence France Presse. Vous reprendrez bien un peu de lasagne Colgate. Dans les années 80, la marque d'hygiène buccale avait lancé une gamme d'aliments congelés qui fut un bide retentissant. C'est l'un de ceux évoqués à Los Angeles dans une exposition itinérante de la collection du Musée des échecs récemment ouvert en Suède. De la voiture DeLorean, immortalisée au cinéma dans Retour vers le futur, au masque électrique supposé vous rajeunir, promu par la star de la série télévisée Dynasty Linda Evans, en passant par la vodka Trump, l'exposition présentée jusqu'en février en Californie rassemble 100 inoubliables fiascos. Beaucoup préféreraient que ces humiliantes défaites soient oubliées et Colgate a refusé de donner un exemplaire de ses lasagnes au musée qui en expose une réplique, explique à l'AFP Samuel West, psychologue et directeur du musée suédois. Le président américain Donald Trump, qui a réussi en 2016 une campagne électorale défiant tous les pronostics et se présente comme un gagnant à qui tout réussit, a les honneurs d'une section entière dédiée à ses plus grandes gamelles. Parmi elles, le jeu de société « Je suis de retour et vous êtes viré », sa vodka ou un livre sur son université, laquelle a fonctionné quelques années au début des années 2000 avant d'être l'objet de poursuites judiciaires et d'être dissoute. Il a construit son image sur le fait d'être un homme d'affaires couronné de succès, mais si on regarde ses initiatives, beaucoup ont été des mésaventures, estime M. West. Les lunettes Google ou celles de Nike, sans branche et qui nécessitaient de coller des aimants sur le visage pour tenir, le Coca-Cola Black au café ou le Pepsi Cristal transparent sont vite tombés aux oubliettes. La poupée en haillons Little Miss No Name, aux yeux mélancoliques, n'a pas non plus réussi à détrôner les princesses dans le cœur des petites filles. Il n'y a pas de petites économies, mais la société chinoise qui voulait louer des poupées gonflables au lieu de les vendre, laver entre chaque client, promettait-elle, n'a pas séduit grand monde. Dans cette galerie d'échecs, souvent cocasse, se dessine toutefois un message très américain. Tout le monde a droit à l'erreur. Qu'allez-vous faire avec vos proches pendant le temps des fêtes? Eh bien, j'ai une bonne idée d'activité pour vous. On va partir du texte de la presse canadienne. Lancement d'un jeu de société portant sur la corruption à Montréal. Les Montréalais pourront prochainement jouer un jeu de société dans lequel ils devront utiliser la corruption et la collusion pour s'enrichir dans les projets de construction. Mais pour gagner, ils devront y arriver sans se faire pincer par les autorités. Dans le jeu Construction et collusion, la corruption avec le maire et la collusion entre les entrepreneurs sont permises, mais ces stratégies peuvent amener des conséquences si un maire qui ne sait pas coquiner avec eux est élu pendant la partie. Le jeu prend fin lorsque trop d'enquêtes ont été ouvertes. David Loach, un des concepteurs du jeu, a expliqué que son aventure avait commencé par une blague avec des amis qui est devenu un projet plus sérieux sur lequel ils ont travaillé dans leur temps libre. En entrevue, le premier essai de son jeu auprès du grand public samedi, il a confié avoir choisi le thème de la corruption à Montréal car lui et ses amis trouvaient amusant de faire une mise en situation dans cette ville qu'ils connaissent si bien. Le jeu a d'abord et avant tout un destin local car selon M. Loach, toute sa richesse repose dans le fait que les joueurs sont familiers avec les différents endroits de la ville. Pour l'instant, le jeu ne se retrouve pas sur les tablettes des magasins. Il se vend exclusivement sur Internet par l'entremise d'une campagne de sociofinancement. Les jeux qui se vendront sur le web seront bilingues, même si les prototypes, eux, sont seulement en anglais. Après les dents de la mer, on a un nouveau prédateur qui s'en prend aux baigneurs à San Francisco. Attaqué par des lions de mer dans la baie de San Francisco. C'est un texte de l'agence France-Presse. Les téméraires qui bravent les eaux glaciales de la baie de San Francisco ont désormais une raison de plus de frissonner. Les attaques de lions de mer, à cause desquelles un baigneur a bien failli perdre ses parties génitales. Une crique de la baie de San Francisco a été interdite à la baignade pour quelques jours par le National Park Service, en raison de 3 attaques de lions de mer en l'espace d'une semaine. De telles attaques sont rares, mais se sont déjà produites. Rick Mulvihill a été sévèrement mordu vendredi et hospitalisé, a rapporté le San Francisco Chronicle, citant le département des pompiers. L'homme fait partie du club Southend Rowing Club, dont les membres se baignent tôt le matin dans les eaux dont la température moyenne en décembre est d'environ 12 degrés Celsius. Le mammifère marin l'a attrapé ici, à côté des bijoux de famille, a raconté un autre membre du club, Bob Roper, 79 ans, désignant son entrejambe. « Je suis ici depuis 50 ans et je n'ai jamais entendu parler de quelque chose comme ça », a-t-il dit au Chronicle. « Beaucoup de nageurs sont très, très nerveux maintenant et je les comprends. Toutes ces attaques pourraient être le fait d'un seul et même animal », a estimé Claire Simeone, vétérinaire. Comme quoi, on voit que le lion de mer a quand même une bonne vue parce que dans une eau à 12 degrés, la cible n'était pas si importante. Allez, je gage que ce matin, en vous levant, la première personne à qui vous avez pensé, c'était Jean-Claude Van Damme. Non? Non? Peut-être pas. Jean-Claude Van Damme tente une de sauver sa carrière, un texte de l'AFP. L'acteur belge Jean-Claude Van Damme espère sauver sa carrière grâce à la série Jean-Claude Van Johnson, diffusée à partir de vendredi sur Amazon Prime et présentée mardi soir en première mondiale à Paris. La vedette du cinéma d'action fait ses débuts sur petit écran dans cette comédie qu'il qualifie de burlesque, clownesque, dans laquelle il joue son propre rôle. Le comédien, 57 ans, réfléchissait depuis quelques années à travailler pour la télévision et à une idée de série, à un concept d'acteur qui voulait être un espion. « Je voulais vraiment faire de la télévision. J'étais devenu un acteur de vidéo à la demande. Je ne fais plus de cinéma », a-t-il confié à l'AFP. La télé pouvait peut-être sauver ma carrière grâce à l'exposition mondiale qu'elle permet. Je voulais faire de la télé depuis 9 ou 10 ans. Si Brad Pitt veut faire de la télé, il n'a qu'à lever la main et on lui fait une offre, déclare-t-il. Pour moi, cela a pris plus de temps. Il y a environ 4 ans, j'essayais de me lancer et le producteur Scott Free a aimé mon concept et il a appelé ses génies, raconte-t-il en désignant Dave Callahan, scénariste, Expendables, Godzilla, et Peter Attenshaw, réalisateur. Dans cette parodie qui moque le cinéma américain, il est Jean-Claude Van Damme, star de films d'action qui cache une carrière parallèle d'agent secret sous le nom de Jean-Claude Van Johnson, qu'il doit réactiver. Interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à jouer cette caricature de lui-même, il a répondu « C'est difficile de se moquer de soi-même, mais comme je suis un bon acteur, alors pourquoi pas ?» Il ne s'est pas mêlé de l'écriture. « Je ne suis pas scénariste. Un homme comme moi doit lâcher prise. Je les ai laissés faire leur travail. » Le comédien a voulu que la première mondiale se déroule à Paris. Il y a 10-15 ans, je ne faisais plus de première de cinéma. J'avais dit à ma mère en Belgique, « Maman, un jour je referai un film et tu verras, la première sera à Paris. » Alors on souhaite la meilleure chance du monde à M. Van Damme. Allez, il est temps d'aller au Vatican pour deux courtes nouvelles. La première concerne le trafic de reliques. Le Vatican a mis en garde samedi les fidèles catholiques souhaitant offrir un cadeau à leurs proches pour Noël contre le trafic de reliques de saints vendues sur des sites Internet ou des magasins d'antiquités, soulignant que ce commerce était absolument interdit par l'Église. Le commerce ou la vente de reliques est absolument interdit, a souligné la Congrégation pour la cause des saints dans un nouveau guide destiné à l'Église et expliquant comment vérifier l'authenticité des reliques et préserver celles qui ont été reconnues comme étant authentiques. Les ossements, cheveux, doigts et autres restes des saints de l'Église catholique ont été préservés et vénérés pendant des siècles, comme la langue de saint Antoine de Padoue et la tête de sainte Catherine de Sienne, attirant des foules de fidèles dans les sanctuaires où ces reliques sont conservées. Mais des magasins d'antiquités et des sites de commerce en ligne vendent aussi des supposées reliques de saints considérées comme mineures. Non seulement cette vente est interdite, mais les reliques ne peuvent pas être exposées dans les églises pour la vénération des fidèles sans certificat attestant de leur authenticité, a souligné la congrégation. Et ce n'est pas un débat nouveau. Je vous rappellerai par exemple que Louis IX a fait bâtir la Sainte-Chapelle pour un morceau de la vraie croix qu'il avait payé une fortune et qui n'était évidemment qu'un faux. Par contre, la Sainte-Chapelle demeure un bijou architectural à Paris. Allez, je reste au Vatican et je reste dans ces sujets scabreux pour vous dire que ça y est, oui, le Vatican a rendu une tête momifiée. Le Vatican restitue une tête réduite à l'Équateur. Le musée du Vatican a restitué samedi à l'Équateur, à l'occasion d'une visite du président équatorien Lénin Moreno au pape François, une tête réduite de guerrier d'une ethnie amazonienne qui avait été ramenée en 1925 par un missionnaire. La tête réduite, qui appartient au peuple indigène Shuar, a été remise à l'Équateur après des mois de négociations, a indiqué le Vatican. La restitution d'un objet historique par les musées du Vatican, qui possèdent l'une des plus importantes collections d'art et d'archéologie au monde, est extrêmement rare. Cette tête, qui avait été amenée au Vatican par un missionnaire en 1925, sera donnée au musée ethnologique de Pumapungo à Cuenca. Ça ne devait pas être un saint, ce guerrier. Allez, transactions immobilières. Je vous parle d'une charmante petite maison à Versailles, pas tellement loin du château du même nom. Mohamed Ben Salman, nouvel homme fort d'Arabie Saoudite qui se veut le chantre de l'anticorruption, est le mystérieux acquéreur du château Louis XIV près de Paris, demeure privée la plus chère au monde, cédée pour 415 millions de dollars canadiens, affirme le New York Times. La luxueuse propriété a été vendue en septembre 2015 par la société française spécialisée dans l'immobilier de luxe Daniel Féau. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est même pas un vrai château, c'est tout à fait moderne, mais ça a l'air vieux. Ça a vraiment l'air vieux et le terrain est géant. Restez avec nous de l'autre côté de la pause, on aborde les nouvelles internationales et le monde culturel. À tout de suite.
Très belle reprise de Summertime par Angélique Kidjo.
Oui, nouvelles internationales et on s'en va de ce pas au Chili. Chili qui va connaître une nouvelle présidence, Piñera, le milliardaire qui va de nouveau présider le Chili. C'est le titre du texte de la presse canadienne. Il est l'un des hommes les plus riches du Chili et son nouveau président. À 68 ans, Sebastián Piñera est de retour au pouvoir après avoir été le premier chef de l'État de droite dans ce pays en près de 50 ans. Cet hyperactif qui assure ne dormir que 5 heures par nuit va succéder à la présidente socialiste Michelle Bachelet. Depuis son dernier mandat en 2010-2014, il se préparait à revenir au palais présidentiel de La Moneda. Passionné d'histoire et grand lecteur, celui qui a reçu la visite et le soutien de son bon ami, le prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa, est aussi célèbre pour ses gaffes, comme lors de l'entre-deux-tours où il a affirmé que nombreux cas d'enfants transgenres se corrigent avec l'âge, soulevant un tollé. Visage parfois crispé, tic nerveux au niveau des épaules et montre rouge vif aux couleurs de son parti, le futur président est apparu au long de la campagne entouré de son épouse Cecilia Morel, ses quatre enfants et quelques-uns de ses neuf petits-enfants. Ces derniers lui ont adouci le caractère, confie une de ses collaboratrices souhaitant rester anonyme et on se demande pourquoi. La fortune de Sebastián Piñera, estimée à 2,7 milliards de dollars par Forbes, a toujours fait grincer des dents. Il ne peut pas se consacrer à gagner de l'argent et en plus gouverner le pays. C'est l'un ou l'autre, critiquait son adversaire malheureux, le socialiste Alejandro Guillier. Il semble pourtant qu'il a eu du mal à choisir entre la politique et les affaires. Patron pilotant son propre hélicoptère, ancien propriétaire d'une chaîne de télévision et d'un club de football, M. Piñera était devenu en 2010 le premier président de droite du Chili depuis le retour à la démocratie après la dictature d'Augusto Pinochet de 73 à 90. L'une des pires injustices du réchauffement climatique est probablement que ceux qui vont en souffrir le plus sont ceux qui en sont le moins responsables. Et l'ONU vient de sensibiliser la communauté au sort des petits paysans africains. Isabelle Malsan, l'Agence France-Presse. Les petits paysans victimes du réchauffement et de la faim. Les petits paysans exposés au réchauffement climatique et à l'insécurité alimentaire, particulièrement en Afrique, doivent être urgemment aidés sous peine de faire grossir le flux des migrants et réfugiés, avertissent organisations internationales et ONG. Je ne veux pas être alarmiste, mais lorsqu'on regarde l'augmentation de la population prévue, si l'investissement à long terme en milieu rural n'est pas soutenu, le problème des migrations que nous voyons aujourd'hui pourrait s'amplifier, a prévenu début décembre à Paris le Togolais Gilbert Ungbo, président du Fonds international de développement agricole, agence onusienne basée à Rome. La population d'Afrique subsaharienne, 645 millions de personnes en 2015, est appelé à augmenter à 1,4 milliard d'ici 2055, ce qui constitue une caractéristique démographique unique dans l'histoire mondiale, confirme l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, dans son premier atlas sur les migrations rurales en Afrique subsaharienne, publié en novembre. D'ici le milieu du siècle, la population rurale subsaharienne devrait augmenter de 63 % selon l'ouvrage. L'Afrique subsaharienne est d'ailleurs la seule région du monde où la population rurale continuera de croître après 2050, ajoute la FAO. Cocktail explosif. Alors que la sous-alimentation a augmenté en Afrique l'an passé, touchant 22,7% de la population contre 20,8% en 2015, soit 224 millions de personnes, un quart de la population mondiale touchée par la faim. Cette brusque remontée des chiffres de la faim en 2016, après 10 ans d'amélioration quasi constante, s'explique par les conflits au Soudan du Sud notamment et les sécheresses qui perdurent en Éthiopie et en Somalie principalement, liées au réchauffement climatique selon la FAO. Pour éviter un embrasement, les organisations internationales comme le FIDA plaident pour une augmentation des aides au secteur agricole producteur d'alimentation afin de lutter à la fois contre la faim et le réchauffement. On entend parler de Téhéran pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons, plus rarement pour sa pollution. Et c'est pourtant le sujet qui retient l'attention ces temps-ci dans la capitale iranienne où l'on voit des femmes habillées en tchador, mais avec un masque par-dessus pour respirer, ça vous donne une idée. Téhéran suffoque, la circulation automobile en cause. Et c'est un texte de Siavioch Ghazi de l'agence France-Presse. Air saturé en particules nocives et écoles fermées par précaution. Malgré des restrictions à la circulation automobile et l'activité industrielle, les 8,5 millions d'habitants de Téhéran suffoquaient dimanche en raison d'une pollution atmosphérique très élevée depuis plusieurs jours. Les autorités de la province de Téhéran ont annoncé samedi soir la fermeture de tous les établissements d'enseignement primaire, sauf dans deux villes, et cette mesure pourrait être prolongée lundi. La concentration en particules fines est montée dimanche matin jusqu'à 185 microgrammes par mètre cube dans le sud de Téhéran et 174 dans le centre. Selon les autorités municipales, l'OMS recommande un taux inférieur à 25 microgrammes en moyenne sur 24 heures. Les mines et les cimenteries de la province de Téhéran ont également été fermées pour la journée de dimanche et les restrictions à la circulation imposées habituellement dans le centre de la capitale ont été renforcées. Les personnes fragiles, enfants, femmes enceintes, personnes âgées ou souffrant de problèmes cardiovasculaires ont été priées de rester chez elles. Depuis plusieurs semaines, la chaîne montagneuse de l'Alborz, qui domine Téhéran, apparaît voilée à certaines heures de la journée par une brume de pollution. Dimanche, la montagne se dérobait totalement à la vue, oblitérée par le nuage toxique. Nombre d'habitants de la capitale ont pris l'habitude de sortir avec un masque anti-pollution, comme Ali Ibrahimian, retraité, qui explique être sorti de chez lui uniquement pour les besoins d'une affaire urgente à régler. Le gouvernement ne fait rien. Je n'ai pas peur de le dire. À qui doit-on s'adresser pour cette air polluée? Que font-ils? S'indigne Fatmeh Assadi, une femme d'une soixantaine d'années. Tout le monde connaît les raisons de la pollution, mais les responsables ne font rien, estime Hossein, un homme d'une soixantaine d'années également. Téhéran suffoque, mais des centaines de milliers de voitures sont construites tous les ans, dit-il. Ils construisent dans les montagnes, ils détruisent les forêts. On ne veut pas de pétrole, on ne veut pas d'essence. Il faut que l'avenir de nos enfants soit assuré avec de l'air pur. On entendait tout à l'heure Summertime interprété par Angélique Kidjo. Cédric Berger, lui, consacre un texte dans les pages du Journal de Montréal d'aujourd'hui, La grande évasion d'Angélique Kidjo. Parfois, un simple geste jumelé à un coup de chance peut changer une vie. Parlez-en à Angélique Kidjo. Sans un extraordinaire concours de circonstances et la complicité d'un douanier qui lui a permis de fuir son pays en douce, la chanteuse africaine n'aurait certainement pas connu une carrière prolifique qui lui a rapporté 3 prix Grammy. C'est là que tout a changé. Si le douanier me dit non, ça aurait été terminé, tranche l'artiste du Bénin, assise près d'un feu de foyer à l'auberge Saint-Antoine lors d'un récent passage à Québec. Pour un Québécois, le récit de l'évasion de Kidjo, qu'elle relate brièvement dans son autobiographie « La voix et le miroir de l'âme », n'est pas sans évoquer les passages à l'Ouest dignes des romans d'espionnage des joueurs de hockey issus du bloc communiste dans les années 80 et 90. C'est justement en 83 que Kidjo, âgé de 23 ans, a pris la lourde décision de quitter le Bénin, alors dictature marxiste-léniniste, pour gagner la France et réaliser son rêve de vivre de sa musique. Ce soir-là, Kidjo et son père se rendent à l'aéroport de Cotonou sans l'autorisation de sortie du gouvernement, un document essentiel pour tout Béninois souhaitant voyager et qui lui a été refusé puisqu'elle n'avait pas l'intention de revenir au pays. Non seulement elle n'a pas le dit papier, mais les postes frontières sont alors gardés systématiquement par un douanier du nord du pays et un autre du sud, d'où provient Kidjo, pour qu'ils s'épient les uns les autres. Déterminée malgré ces obstacles, elle a lancé l'idée. Il s'est avéré que le douanier du Sud connaissait mes frères. Il jouait de la musique avec eux. Quand il m'a vu, j'ai eu l'impression qu'il allait avoir une crise cardiaque, se rappelle Angélique Kidjo. Non seulement elle est tombée sur un douanier sympathique à sa cause, mais en plus, son confrère, qui lui aurait été hostile, venait de prendre une pause pour aller aux toilettes. Il m'a dit « disparaît, je ne tamponne pas, tu disparais tout de suite. Et j'ai couru, couru, couru. Quand je suis rentré dans l'avion, mon cœur battait. J'avais l'impression que j'allais mourir. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendu à ma place et je me suis mis en boule sur mon siège. Je n'ai pas bougé, ni bu, ni mangé, jusqu'à ce que l'avion arrive à Paris. J'avais si peur qu'il rebrousse chemin. Un mot, ou plutôt mille, sur les arts visuels. Éric Clément signe dans la presse d'aujourd'hui un texte intitulé « Cynthia Girard Renard, le carnaval de nos errements ». Elle est une des artistes québécoises les plus innovantes de sa génération, alliant fraîcheur, irrévérence et riche contenu critique. Cynthia Girard Bernard fait l'objet de deux expositions marquantes au Musée d'art de Joliette et à la Galerie Hugues Charbonneau à Montréal. Deux expositions où culture populaire et dimension politique s'accordent comme larrons en foire. Plus puissante que jamais dans l'expression, Cynthia Girard Renard expose à Joliette 10 des 12 immenses tableaux de sa série « Nos maîtres les fous ». Des œuvres aux couleurs vives qui font grande impression sur les cimaises du musée d'art Lanaudois, un lieu parfaitement adapté à leur dimension. Ces portraits ludiques d'hommes et de femmes d'aujourd'hui déguisés en animaux sont une sorte de satire de nos comportements. Dans Save the Whales, des pieuvres se rebellent et prennent les armes contre l'inconscience humaine. Dans Ni Dieu ni Maître, une fable associe une tortue, un renard et un hibou. Le renard se prend pour un anarchiste mais s'habille en vêtements Hermès. La tortue prône la paix avec un revolver pourvu d'un drapeau blanc. Et si elle incarne la terre, Gaïa est écrit sur sa coquille, elle se crème le corps avec un produit artificiel. Seul le hibou, horloge du temps, semble se demander ce qu'il est venu faire dans cette galère, où l'indifférence par rapport à la santé de la planète sème le chaos jusque dans les montagnes californiennes. Les tableaux faussement naïfs de Cynthia Girard Renard ridiculisent également notre perte d'identité, par exemple dans « Be Yourself » où la dépendance au mode ravit l'homme d'affaires qui s'en frotte les mains. Au milieu de l'exposition, l'artiste a placé un mobile constitué de figurines de lapins, de petits cochons, de chiens, de nounours et de hiboux, des animaux décrits comme des objets utilitaires, tire-lire, boîte à biscuits, etc., et des esclaves de l'homme. Qu'on ne s'y trompe pas, si l'exposition peut esthétiquement plaire aux enfants, elle ne s'adresse pas à eux. Au sol, un chien déguisé en policier lit Le système totalitaire, le livre référence d'Anna Arendt, encore très éclairant 66 ans après sa sortie. À côté, une fausse peluche en céramique dévore Staying with the Trouble, le livre de Donna J. Haraway, qui évoque le goût de l'homme à s'entretuer et désormais à détruire sa propre maison. Plus loin, un écureuil perché sur une souche lit « Les damnés de la terre » de Frantz Fanon, une installation brillante qui, en plus de suggérer des pistes de réflexion, invite discrètement chaque visiteur lucide à apporter sa contribution. Après « La revanche des sans-culottes », son premier solo à la galerie Hugues Charbonneau au début de 2016, Cynthia Girard Renard est de retour au Belgo avec une série intitulée « Amour et anarchie ». L'artiste diplômé du Goldsmiths College de Londres s'est inspiré d'un film de la réalisatrice italienne Lina Wertmüller qui se déroule dans un bordel durant la dictature fasciste de Mussolini pour créer des peintures qui portent sur la résilience et la résistance en temps de crise, un thème toujours d'actualité. Si nos maîtres les fous transmettent des messages politiques en les incorporant dans un univers enfantin, Amour et anarchie aborde sans détour la sexualité et les pratiques sexuelles, notamment le fétichisme et le sadomasochisme. Un tout autre contexte pour parler de politique et de comportement humain. Autre contexte, mais même genre de satire, comme un miroir qu'elle nous tend. Ses œuvres sont complexes, créées sur des toiles que l'artiste a préalablement frottées contre l'écorce d'un arbre, évidemment du Mont-Royal, la scène de son recueil « Le renard vulve ». Tous les visages des personnages de Cynthia Girard Renard ont également été peints avec ses fesses trempées dans sa palette de couleurs. Un travail éloquent qui mêle gestualité, recherche du détail et volonté de faire un clin d'œil sans prétention sur nos errements. On passe immédiatement aux nouvelles régionales et plus particulièrement au Soleil de Québec où Gilbert Leduc signe un texte intitulé « Le gouvernement piraté à sa propre demande ». Le gouvernement du Québec va débourser un peu plus $1 million au cours des 3 prochaines années pour subir des cyberattaques, de la part évidemment de pirates bien inoffensifs. Oui, vous avez bien compris. Le gouvernement va nous payer pour simuler des attaques contre les infrastructures technologiques et les applications hébergées par le Centre des services partagés du Québec, comme le font régulièrement des pirates informatiques, explique Patrick Chevalier, cofondateur et associé principal de la compagnie Les Solutions Vumétrique, une entreprise de Québec spécialisée en cybersécurité. Rassemblant une dizaine de spécialistes de haut niveau, Vumétrique aide les organisations privées et publiques à protéger leurs actifs contre les menaces et les risques liés à l'utilisation des technologies de l'information. En se mettant dans la peau des pirates informatiques et en exécutant des tests d'intrusion pour accéder à de l'information sensible. L'entreprise vient donc de remporter un important contrat de 3 ans d'une valeur estimée à plus d'$1 million avec le gouvernement du Québec. Selon Patrick Chevalier, il s'agirait d'un des plus importants contrats de tests d'intrusion accordés à ce jour au Canada. Du coup, Vumétrique devient le fournisseur exclusif de services de tests d'intrusion, d'audit de sécurité et d'analyse de vulnérabilité des infrastructures. Si on va à Ottawa maintenant, Jacques Normand Sauvé du droit signe un texte intitulé « Le dédale d'un sinistré ». On parle bien entendu d'une personne qui avait été inondée le printemps dernier. On pensait que c'était terminé, bien non. Mardi, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Martin Coiteux, présidera à Québec une journée d'échange avec les différents acteurs impliqués dans les inondations du printemps dernier. Maires, préfets et sinistrés s'asseoiront à une même table pour faire le bilan de ces événements et porter un regard collectif sur des pistes d'amélioration pour l'avenir, annonce le ministère de la Sécurité publique. En avril et mai dernier, 291 municipalités étaient foudroyées par des crues aussi inattendues et que sévères. Plus de 5300 résidences principales ont été inondées au Québec et plus de 4000 personnes étaient évacuées de leur domicile. Gatineau fut l'une des municipalités les plus affectées par ce désastre. Mardi, le maire Maxime Penneau-Jobin et un sinistré de Gatineau seront à la même table que le ministre et le sous-ministre pour faire le point sur la situation. Le droit s'est entretenu avec ce citoyen qui parlera au nom de tous les autres, Michel Papineau, un fonctionnaire fédéral à la retraite de Gatineau. Après des mois de tergiversations bureaucratiques, d'attentes, d'espoirs déçus et de dépenses financières imprévues, M. Papineau est amer et n'attend pas grand-chose de cet exercice, dont il reconnaît cependant les bonnes intentions. « S'il n'y a pas de sinistré qui y va, tu n'as pas de voix, tu as beau chialer. Si tu ne fais pas les représentations qu'il faut aux autorités, il n'y a rien qui se passe. » C'est que M. Papineau est aigri. Les gens sont épuisés, moralement, physiquement, émotivement, financièrement. C'est dur, je te le dis, c'est très dur. J'ai encore de la misère à tenir la tête au-dessus de l'eau. C'est très pénible. Tous les gens qui ont moins de compétences, moins de résilience, ils tombent de tous les bords. Le processus est long, trop long, c'est inimaginable. Selon M. Papineau, une vingtaine de résidents de Gatineau n'ont toujours pas reçu le rapport d'inspection de juin, un document d'à peine 3 pages, dit-il. Tu veux faire immuniser ta maison? La ville dit que c'est le ministère dit que c'est la ville. À qui je parle d'abord? Les rôles ne sont pas clarifiés, c'est long. Tu essaies de joindre un agent là-bas à Québec? Ben, bonne chance, mon cher. Appelle puis appelle. Peut-être que dans 2 semaines, ils vont te retourner un appel, raconte M. Papineau. Un dédale épouvantable. C'est comme si tu te battais contre un mur. Et la paperasse. Ils vont te faire une avance. Tu ne sais pas sur quoi l'avance est faite. Tu ne sais pas ce qu'ils ont payé. Tu ne sais pas ce qu'ils n'ont pas payé. Mais malgré toutes les frustrations, et même si M. Papineau estime qu'il en a pour encore 1 an essayé de se dépatouiller, il croit voir à l'horizon une lueur d'espoir. On essaie de faire quelque chose pour les aider, les sinistrés. On essaie d'accélérer le processus. Il y a quelqu'un qui a pris le bâton et on s'en va se battre pour vous autres, annonce-t-il à ses voisins et concitoyennes sinistrés. Monsieur Papineau Monsieur Papineau avoue que les instances politiques sont quand même à l'écoute. Québec a finalement modifié les critères encadrant la reconstruction des maisons et l'indemnisation des victimes des inondations, en assouplissant notamment son décret. 17 consultations publiques se sont tenues dans 15 régions du Québec. Des actions qui prouvent, croit-il, que les intentions sont là. Le ministre Couateux a quand même le courage de ne pas se cacher. Il y a au moins ça qui est encourageant. À Sherbrooke, dans la tribune, Marie-Christine Bouchard s'est posé la question de la difficulté à retourner au travail quand on a été malade ou écarté du marché par un handicap. Travailler sans soutien ou quitter la population active, voilà le dilemme auquel sont confrontés de trop nombreux Canadiens. En effet, une étude démontre que la moitié des Canadiens de plus de 20 ans sont atteints d'une maladie chronique, arthrite, Parkinson, diabète, fibromyalgie, épilepsie ou maladie de Crohn, entre autres. Chaque année, ces maladies chroniques causent des pertes de productivité qui grèvent l'économie canadienne d'environ 122 milliards de dollars, soit environ 6 % du produit intérieur brut du pays, selon les données fournies par un récent rapport fourni par le Forum des politiques publiques. Nathalie Goudreau fait partie de ces chercheurs qui constatent trop souvent que le retour au travail n'est pas abordé quand il est question de soulager un problème de santé. Cette physiothérapeute de formation, chercheuse au Centre de recherche du CHUS et professeure à l'Université de Sherbrooke, s'intéresse aux patients qui subissent une arthroplastie, c'est-à-dire un remplacement d'une hanche ravagée par l'arthrose. Comment se passe le retour au travail après une arthroplastie? Premièrement, on se rend compte que la question n'est souvent jamais abordée dans la trajectoire de soins, explique celle qui travaille en collaboration avec ses collègues du service d'orthopédie du CHU et avec la professeure Marie-France Coutu. Avant, on mettait des prothèses aux gens plus tard dans leur vie parce que la durée de vie limitée des prothèses était un obstacle. Maintenant, comme la durée de vie des prothèses s'est rallongée, on remplace des hanches ou des genoux plus tôt dans la vie parce qu'on se rend compte que les gens, plus ils sont jeunes, mieux ils le récupèrent et plus ils seront fonctionnels longtemps, soutient Mme Goudreau. Résultat, environ 80 % des gens se relèveront sans difficulté de l'opération et pourront retourner travailler et reprendre toutes leurs activités sans problème. Par contre, pour les autres 20 %, la douleur risque de perdurer et le chemin de la réadaptation sera parsemé d'embûches. C'est triste quand les gens ne peuvent pas reprendre une vie active parce que la douleur perdure. Il y a eu des avancées aujourd'hui, il y a même des programmes de pré-réadaptation. Les hôpitaux ont des programmes avec des trajectoires de réadaptation après une chirurgie, mais tout n'est pas mis en place pour favoriser le retour au travail, nuance-t-elle. C'est pourquoi une autre de ses études porte sur la provenance de cette douleur résiduelle. Est-elle neurophysiologique? Y a-t-il moyen de détecter le risque que la douleur perdure avant même que l'opération soit faite? Si on identifie ce risque avant la chirurgie, il existerait des voies pour renforcer ces mécanismes grâce à de la physiothérapie, dit-elle. Et voilà qui complète cette édition du 18 décembre 2017 du quotidien des quotidiens. Je remercie Maurice Bolduc à la mise en onde et aux choix musicaux. Et je rends ce micro à sa titulaire dès demain. Effectivement, Hélène sera de retour. Merci d'avoir été là. Restez avec nous pour vos paractualités dans quelques instants.